revenu journalier moyen des travailleurs malgaches. Guillaume Fabrian, Tanan Arrive, RFI.
RFI, 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. On vous retrouve, Nathalie Amar.
Merci, Alban Le Prince, et bonne journée.
Radio G, 101.5 FM.
Venu d'ailleurs, la nouvelle émission sportive, mais pas que, de Radio G. Animée par Valentin Dedon pour l'association La Dalle Angevine. À retrouver un vendredi sur deux à 9h10 sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Une conversation intime avec un ou une invitée venue d'ailleurs et qui vit aujourd'hui sa passion pour le sport à Angers. Alors à très vite dans Venu d'ailleurs sur Radio G. Venu d'ailleurs, c'est un podcast pensé pour vous faire découvrir des personnalités, actrices et acteurs de la vie sportive angevine, et qui possèdent toutes et tous ce très beau point commun. Elles ou ils sont nés dans un pays qui n'est pas la France, dans un ailleurs qui déclenche une curiosité, comme une invitation au voyage, un voyage humain. Alors nous allons les accueillir et les questionner, sur leur terre natale, sur leur rencontre avec le sport là-bas, sur le chemin qui les a conduits jusqu'ici, à Angers, et sur le rôle qu'ils ou elles occupent aujourd'hui dans le paysage sportif local. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Venu d'ailleurs. On accueille aujourd'hui au local de l'association La Dalle Angevine, Laurent Coffrier, 50 ans, et qui est le responsable technique du club d'Angers Natation Waterpolo, qui entraîne l'équipe première, mais qui est aussi le coach des U17, et puis qui gère un petit peu toute la politique technique du club. Bienvenue à toi Laurent, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi de m'inviter.
Laurent, on démarre comme d'habitude avec la première question un peu rituelle de ce podcast. Où est-ce que tu es né, dans quelle ville, dans quel pays ?
Alors je suis né à Bruxelles, en Belgique, et ça fait maintenant 50 ans, oui, effectivement.
Alors tu es né à Bruxelles, donc dans la capitale. Raconte-nous un petit peu dans quel quartier, dans quelle partie de la ville, dans quelle atmosphère un petit peu se sont passées tes premières années là-bas.
Alors mes premières années sont passées simplement à l'hôpital, à Etterbeek, et après j'ai directement été à Eupen, qui est dans la partie germanophone de la Belgique. Et j'ai passé mon enfance là-bas.
Vous avez déménagé assez vite de Bruxelles à Eupen.
Oui, exactement.
D'accord. Et donc Eupen, c'est quoi comme endroit ? Ça se situe où un petit peu dans la Belgique ?
C'est tout près de l'Allemagne et à la frontière, carrément. À la frontière de Aix.
Et alors, donc, du coup, toi, en termes de langue, tu parles, t'as très vite parlé tout de suite à la fois allemand et français. Dans quelle langue on parle là-bas ?
Alors, mes parents parlent flamand. C'est des flamands. Et moi, j'ai parlé directement allemand et français. Mes parents ont tout le temps parlé français avec moi. Et j'étais à l'école allemande.
D'accord, donc tu maîtrises, tu as très vite maîtrisé les deux langues.
Oui, les trois même.
D'accord, oui, le flamand aussi évidemment.
Flamand, allemand et néerlandais.
D'accord, et comment s'est fait un petit peu là-bas à Eupen ta rencontre avec le sport ? Est-ce que ta famille était sportive, des frères, des sœurs, des parents qui faisaient du sport ? C'était quoi ton premier sport ?
Alors effectivement, mes parents sont très sportifs et ma mère était plutôt dans l'équitation. Ça m'a pas trop botté ça. Par contre, mon père était militaire de carrière, sportif, et il a fait du water polo tout au long de sa vie. Et c'est lui qui m'a donné l'envie de venir faire ce sport.
Donc dans tes jeunes années, tu te revois aller le voir jouer au water polo dans l'ambiance de la piscine déjà. Tu vivais un petit peu dans cette atmosphère-là.
Oui, je vivais dans cette atmosphère-là et parce qu'il jouait à haut niveau. Il a fait les Jeux Olympiques de Tokyo. Et voilà, donc c'était un très très bon niveau et c'était le meilleur belge.
D'accord, ok, donc ça a été une figure importante du water polo belge pendant des années, d'accord.
Ouais,
et raconte-nous un petit peu son expérience olympique à Tokyo, est-ce que tu t'en souviens ou le récit qui
t'en a fait ? Non, je ne m'en souviens pas parce que je n'étais pas encore né, Mais je me souviens des photos, il m'a expliqué aussi. Et c'est la seule fois où la Belgique a participé aux Jeux Olympiques.
En waterpolo, c'est la seule fois où l'équipe nationale est allée aux Jeux, encore aujourd'hui.
Oui, exactement. Encore aujourd'hui, ils ne sont pas qualifiés. Le niveau a très, très a baissé fortement.
D'accord. Donc toi, après, tu as suivi un petit peu ces traces-là. Toi aussi, tu as un parcours de haut niveau, de joueur de haut niveau professionnel. Tu as fait une carrière de joueur. Raconte-nous un petit peu comment ça a démarré, où et qu'est-ce qui t'a guidé un petit peu dans ce parcours vers le haut niveau.
Alors, ma carrière a commencé à Eupen, exactement. Et à l'âge de 10 ans, j'étais déjà avec un ballon en main. Et j'avais déjà fait 4 ans de natation avant. Après, ça m'a tellement pris dans les tripes que j'ai voulu suivre la trace de mon père. Voilà, donc, étant donné que le niveau a fortement augmenté par rapport à d'autres pays, ben, la Belgique n'a plus été qualifiée aux Jeux Olympiques. Par contre, on a quand même fait des championnats d'Europe et j'étais un des derniers qui a gagné contre la France.
Petit tacle là.
Voilà. Donc c'était des années mémorables et je regrette rien du tout, et au contraire, ça a été vraiment ça a forgé mon envie de continuer dans ce sport et de devenir entraîneur.
De continuer un peu ton histoire avec le waterpolo d'une autre manière.
C'est ça, exactement.
Et je reviens juste sur ce que tu disais. Donc, en plus d'être joueur pro en club, donc c'est ce que tu nous as dit. Tu étais joueur de l'équipe nationale belge et donc vous avez disputé des championnats d'Europe, des compétitions internationales un petit peu partout, j'imagine, pendant des années. Quoi.
Ouais.
T'as été international pendant plusieurs années, pendant toute ta carrière.
Pendant toute ma carrière, c'est-à-dire pendant au moins 15 ans, plus de 15 ans. Et en junior et en senior. Et on a fait les championnats d'Europe, comme je l'ai dit. Et on n'a jamais été vraiment, vraiment très haut dans le classement. Mais c'était très bien.
Et c'était quoi, toi, ton poste, tes caractéristiques de joueur, ton profil, tes qualités?
Alors, mon poste était celui central. Donc, ça s'appelle la pointe. Ça a été mon poste de prédilection et j'ai fait toute ma carrière là-bas.
Donc tu as marqué beaucoup de buts.
Oui.
On les compte pas au waterpolo, il y en a beaucoup, c'est dur à comptabiliser.
Voilà,
j'imagine.
C'est ça.
Donc il y a ta carrière de joueur, il y a ta carrière d'entraîneur. Tu as prononcé ces mots tout à l'heure, tu as dit ça me prenait aux tripes, quoi, ce sport. Qu'est-ce qui fait que tu es un passionné? Qu'est-ce que tu aimes vraiment dans ce sport? Qu'est-ce qui prend aux tripes quand tu es dans la piscine ou autour à guider tes gars?
J'aime bien donner tout ce que je connais. J'aime bien enseigner, j'aime bien le collectif, surtout le collectif. Une équipe, c'est quelque chose de super, quoi. C'est enseigner et puis voir que les gars ils vous suivent, et gagner évidemment c'est très bien, mais il y a deux manières de gagner. C'est gagner en jouant très bien, ça peut aussi être gagnant, et on peut gagner avec évidemment les buts, quoi.
Et cette idée du collectif, même quand tu étais joueur, tu étais leader aussi sur le terrain, leader un peu par la parole. Tu étais déjà un peu un entraîneur dans la piscine ou en tant que joueur?
Non,
ou pas trop?
Non, pas trop. Ça s'est venu au fur et à mesure des années, mais il m'a quand même fallu plus de 5 ans pour pouvoir dire voilà, oui, exactement, c'est ce que je veux faire plus tard.
D'accord, après ou vers la fin de ton parcours, ouais, de joueur, tu as mis du temps un petit peu à t'orienter vers ça. J'imagine que tu t'es formé aussi à ce métier-là d'entraîneur.
Bien sûr, il y a eu beaucoup de formations. Et voilà, donc après j'ai été aussi en Italie, si on peut en parler, parce que ça a été un tournant de ma carrière quand même. J'ai vu les meilleurs joueurs du monde, j'ai joué avec eux. C'était ça qui m'a aussi donné l'envie de continuer dans ce sens. C'était la vie là-bas est totalement différente que chez nous, malheureusement. Mais là, c'est on vit pour ce sport.
Ouais, effectivement. Donc, on a commencé à parler de la Belgique, de ton endroit un peu d'origine. Et après, il y a eu un départ. Donc, ton premier grand départ, la première fois que tu as vraiment quitté ton pays pour habiter ailleurs, ça a été donc l'Italie, c'est ça?
Exactement.
Dans ton parcours,
oui,
de joueur, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu à quel moment de ta carrière, à quel âge ça s'est fait et combien de temps tu restais en Italie?
Ça s'est fait quand même assez rapidement. Ça s'est fait à 18 ans, dès ma majorité. Parce que mon père voulait absolument que je connaisse le vrai haut niveau. Parce qu'on peut pas dire que la Belgique c'est vraiment le très haut niveau, pas du tout. Et là, en côtoyant les meilleurs joueurs du monde, ben là oui, effectivement, c'est une autre planète. Et après, je pouvais pas rester là, étant donné que, on va pas se cacher, le niveau était trop élevé pour moi. Il faut vivre là-bas, il faut commencer sa carrière là pour pouvoir prétendre à aller à ce haut niveau.
Ouais, c'était un test, il fallait être au contact un petit peu de cette vibration water polo pour déjà le vivre pleinement, sa passion, et puis voir un petit peu si on est capable d'aller vers ce très
Exactement,
haut niveau.
Oui,
tu es resté
oui.
une saison là-bas?
Je suis resté une saison là-bas et mon père voulait que mes pieds reviennent sur terre.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'après un moment donné, on pense qu'on est quand même bon, etc. Et lui, il est terre à terre, et il m'a toujours dit maintenant tu vas un peu rester pied à terre et tu vas voir que il y a beaucoup de choses encore à faire.
Donc ton père, on en parlait tout à l'heure, il est resté très présent dans tes choix de carrière ou dans ton accompagnement en tout cas de carrière. C'est quelqu'un qui a compté pour toi dans toute ta carrière.
Oui, comme ma mère et mon père, et ils ont tous les deux été très très attentifs sur ma carrière de sportif. Et il faut savoir qu'il a été aussi le président de la fédération belge aussi.
D'accord, une vraie figure du water polo
oui,
belge.
Exactement, oui.
Et pour revenir un petit peu sur ton année en Italie, à 18 ans, quand on se déracine comme ça de son pays, au-delà du water polo, on a compris que c'était un pays avec un gros niveau, où on vivait le water polo différemment. Voilà, qu'est-ce que tu as découvert aussi une autre culture, un autre lieu, un goût peut-être pour aussi découvrir d'autres endroits après, plus tard, la preuve, tu te retrouves ici en France aujourd'hui ou...
Oui, non, c'était vraiment pour connaître le haut niveau là. Et après, c'était prévu que je reste pas trop longtemps là-bas pour revenir en Belgique, parce que là, j'avais vraiment une carrière à faire et à donner de tout envers l'équipe nationale. C'était vraiment ça l'objectif.
Ouais, donc t'as accumulé aussi durant cette saison, c'était court, mais ça a été riche aussi pour nourrir un peu ta passion et puis ramener peut-être d'autres manières de faire, des idées en Belgique
oui.
pendant ta carrière. Ça a nourri
Exactement.
Toute...
Ça a boosté la carrière à 100%.
Et donc après, à ton retour, tu es resté à Eupen ou tu as fait d'autres clubs en Belgique ou ailleurs? Tu es reparti jouer ailleurs après ou...
Alors je suis reparti à Eupen pour un peu... donc à la fin de ma carrière internationale. Je suis reparti à Eupen faire quelques années en tant que joueur-entraîneur. Et puis après, j'ai mis fin totalement à la carrière parce que ça devenait trop. Et puis je suis parti au Luxembourg comme entraîneur. Et puis après, j'ai connu la France.
D'accord, donc comment ça s'est fait après le trajet, on va dire, de la Belgique, du Luxembourg vers la France? C'est quoi, ça a été quoi ta première expérience d'entraîneur en France?
Ça a été l'équipe de Longwy, du grand Longwy Water Polo. Et là, ils m'ont accueilli bras ouverts pour qu'on remette le club en route et pour essayer de motiver les jeunes à continuer le sport.
D'accord, et elle a duré combien de temps cette expérience à Longwy et comment ça s'est passé?
Ça a duré 3 ans. 3 années, 3 saisons. Et puis après, Limoges est venu me chercher. Et j'ai été alors à Limoges pendant 3 saisons aussi. Où là aussi, ça a été une expérience très, très enrichissante. Et je suis devenu directeur technique à Longwy la dernière année. Et puis après, j'ai continué cette carrière à Limoges. Et puis après, je voulais finir ma carrière là-bas. Mais Angers Waterpolo est arrivé avec un projet bien plus ambitieux qui m'a séduit. Et voilà, me voilà à Angers.
Toi, tu voulais, après Limoges, tu voulais arrêter d'entraîner, faire autre chose ou retourner en Belgique?
Je voulais finir ma carrière là-bas, donc c'est-à-dire continuer.
Rester là-bas, oui, pardon.
Rester là-bas, oui, c'est ça, rester là-bas.
Et donc, qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet d'Angers qui a fait que tu as accepté de
Alors,
venir ici?
Alors, dans un premier temps, le projet. Le projet était ambitieux, un bureau qui était vraiment à l'écoute, et ils veulent vraiment qu'on aille vraiment vers le haut niveau. Et ça m'a séduit parce que je recherche un club qui veut aller au haut niveau. C'est avec de l'ambition que je vis.
D'accord, ouais, donc t'as besoin d'avoir cet objectif à moyen terme ou à long terme, de savoir que l'endroit où tu es veut grandir, faire monter les équipes, que ce soit jeune ou l'équipe première, de porter un petit peu cet objectif.
C'est ça, c'est ça. Donc y a beaucoup de travail à faire, parce qu'on passait d'un club amateur à un club semi-pro, on va dire. Il y a une marge et on y travaille. Et ça prend quelques années, ça.
Quand tu dis on y travaille, donc toi, pour clarifier les choses, tu es à la fois entraîneur de l'équipe première, des U17, mais tu es aussi un peu le directeur technique, le responsable technique. Donc c'est toi qui élabore un peu la politique technique, la stratégie du club aussi pour grandir. Quand tu dis on y travaille, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement quand on veut aller vers le haut niveau? C'est des méthodes d'entraînement, c'est des principes à mettre en place, d'optimisation, de la performance. C'est quoi un petit peu ta manière de faire, ta méthode, ta réputation là-dedans?
Exactement, il y a trois méthodes, effectivement. La méthode première, c'est motiver l'équipe première qui va devenir une vitrine pour les jeunes. Donc ça a été fait assez rapidement. On est passé de la Nationale 3 en Nationale 2. Pour passer en Nationale 1, il faut encore passer un gros palier. Ce palier-là, ce sera dans quelques années, dans 2-3 ans. On va essayer en tout cas. Après, il y a les jeunes, il y a la formation des jeunes, aussi bien en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. On doit aussi faire ça. Après, il y a la troisième chose, c'est une collaboration restreinte avec un bureau qui a envie et qui donne les moyens. Et ça, à Angers, on a. C'est pour ça que je parle toujours parce que je ne suis pas tout seul. Il y a un bureau derrière, il y a les adhérents derrière et il y a moi. Donc si tout le monde adhère au projet que je propose et que eux on se voit aussi aller de l'avant, ben tout fonctionnera. Maintenant, il faut qu'il y ait une collaboration entre les adhérents, bureau et moi.
Ouais, tu te sens pas seul à devoir convaincre ou apporter ton truc. C'est l'objectif global, il est épousé par tout le monde, accepté par tout le monde, et tout le collectif avance vers
voilà,
ça.
C'est ça.
Et, d'accord, il y a beaucoup de communication, d'échanges.
Oui.
Donc, tu as trouvé aussi un environnement comme ça, propice aussi, familial, peut-être convivial, qui te,
oui,
qui te
exactement,
convient.
Oui, exactement. C'est un bureau très, très familial et à l'écoute, comme je l'ai dit.
Et sur la réalité de l'entraînement avec l'équipe première ou les U17, comment ça se passe un coach de water polo? Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport à la discipline dans je sais pas, le temps du match, la préparation, la stratégie, la tactique? Qu'est-ce qu'on pour ceux qui connaissent pas forcément cette discipline, voilà, qu'est-ce que ça requiert?
Le water polo, c'est le troisième sport le plus dur au monde. Donc c'est parce que c'est de la natation, c'est pas d'appui plantaire, c'est ne pas avoir peur de se faire couler, pas avoir peur de l'attaque d'une personne, la maîtrise du ballon aussi, c'est très important. Le rétropédalage, comme on appelle ça, c'est pour rester avec la tête hors de l'eau. C'est un mouvement que l'on ne fait pas dans le quotidien. comme courir. Tout le monde va courir, tout le monde marche. La natation, c'est pas du tout cohérent avec la vie active, on va dire. Donc c'est très dur, c'est pas fait pour tout le monde, ce sport.
Ouais, la nature de ce sport a une grande complexité, quoi. Il faut maîtriser beaucoup de choses et gérer beaucoup de choses.
Oui, il faut maîtriser énormément de choses et aussi la tactique et la vision de jeu. Donc c'est pour faire un bon joueur, il faut à peu près 10 ans. Donc il faut commencer très jeune.
D'ailleurs, tu le disais tout à l'heure quand tu parlais un peu de ton expérience. Généralement, on démarre par, ça paraît logique, mais on démarre par nager, faire de la natation, et après on vient au water polo un peu plus tard peut-être.
Ça, c'est l'idéal. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais c'est l'idéal pour devenir un joueur de haut niveau. Il faut effectivement passer par l'apprentissage de la natation, faire des compétitions de natation, c'est très important pour avoir la vitesse aussi et pour connaître ce sport de natation. Après, la performance en natation devient très, très dure parce que pour gagner 2-3 centièmes sur une compétition, il faut aussi s'entraîner deux fois par jour et tous les jours pendant plus d'un an. Moi, je ne suis pas très spécialiste de la natation, mais en tout cas, moi, je préfère avoir des gens qui viennent de la natation au water polo. Ce qui ne veut rien dire, voilà, mais c'est mieux.
Ouais, ton expérience fait que tu vois bien que quand ça se passe comme ça, il y a des acquis, il y a des facilités aussi pour mieux apprendre le jeu.
Puis il faut savoir qu'après un moment donné, les nageurs, ils en ont un peu marre de voir le carrelage. Il faut un peu jouer collectif après.
Et toi, en tant qu'entraîneur, dans ta relation aux joueurs, comment tu la vis? Est-ce que c'est des personnes pour lesquelles tu leur programmes une espèce de progression? Il y a des sentiments, il y a un lien particulier au-delà du terrain. Comment tu vis un petit peu cette relation-là, entraîneur-entraîné?
Alors, comme c'est un sport amateur actuellement encore, tout le monde travaille, donc je parle des adultes. Là, il faut les motiver à venir s'entraîner le soir, après le travail. On n'a pas forcément toujours envie de venir, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et puis, comme les créneaux sont souvent tard le soir, s'ils rentrent à la maison, on n'a pas forcément envie de repartir. Donc, il faut leur donner envie et leur donner des objectifs. Et effectivement, ils doivent adhérer aussi aux objectifs. Et quand ils adhèrent aux objectifs, ça fonctionne plutôt bien.
Et pour sortir un petit peu du water polo et puis aborder un petit peu la vie à Angers, toi, comment tu te sens ici à Angers? Et puis le rapport avec ce que tu as connu en Belgique ou peut-être dans d'autres endroits de la France, comment tu perçois un petit peu l'endroit, comment tu t'y sens?
Alors personnellement, je trouve que Angers, c'est effectivement le slogan, c'est « il fait bon vivre », c'est la réalité. C'est vraiment une ville très accueillante et ouverte d'esprit, je trouve. Et les gens aussi, les personnes qui y habitent, sont très très sympas et ouverts. C'est vraiment, pour moi, c'est une belle ville. Et je vais me répéter, mais ça va peut-être être ma dernier club mon dernier club, j'espère en tout cas, parce que je vais pas déménager encore plus.
Et toi, ici à Angers, tu t'intéresses aussi à d'autres sports, tu vas voir d'autres disciplines, t'aimes bien un petit peu regarder ce qui se fait aussi dans d'autres sports?
Oui, bien sûr, en tant que sportif, on regarde bien sûr un peu tous les sports. Le sport que je vais voir pour l'instant en tout cas, c'est le rugby. Parce que j'aime bien ce sport-là aussi. C'est aussi un sport collectif, évidemment, mais un sport très respectueux. Et j'aime bien l'état d'esprit du rugby, avec la troisième mi-temps, si on peut en parler. Voilà, donc c'est très, parce que pendant le match, c'est très dur. Mais après le match, tout le monde s'entend, que ce soit l'équipe adverse, que ce soit le public, pareil, j'aime bien. J'aime pas trop les bagarres, etc.
Ouais, il y a le temps du jeu où on est adversaire, mais loyalement. Puis après, c'est fini. Il y a le temps d'après où on boit un coup ensemble et on s'enlace et voilà.
C'est exactement ça, oui.
C'est vrai que c'est beau quand le sport se passe comme ça.
Oui.
Pour terminer, Laurent, pour revenir un petit peu à la Belgique, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la prochaine fois que tu vas rentrer chez toi à Eupen, dans ton endroit, ou peut-être tu as encore de la famille, est-ce que tu y retournes souvent et la prochaine fois, ce sera quand?
Alors, je n'y retourne pratiquement plus du tout, parce que il n'y a plus que ma maman qui habite plutôt vers la mer maintenant. Donc dans les Flandres, à Eupen, je n'y retournerai certainement pas. Enfin, on ne sait jamais, hein, mais on ne sait jamais de quoi elle est passée. Mais non, je ne pense pas et j'y vais deux, trois fois par an et encore, c'est pour 3-4 jours.
Quand tu y vas, c'est près de la mer pour aller voir ta maman
Oui, c'est ça. Mais je n'y retournerai pas y vivre.
D'accord, ce sera plutôt Angers le dernier endroit.
C'est ça, et puis j'aime bien la France aussi. Il y a tout en France, je ne vois pas pourquoi il faut encore voyager.
Merci beaucoup Laurent d'avoir accepté l'invitation.
De rien, merci aussi de m'avoir invité.
Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Venu d'ailleurs avec une nouvelle rencontre. Merci.
FM.
Depuis plus de 40 ans, Radio G donne la parole aux Angevins et met en valeur son territoire. Aujourd'hui, comme de nombreux acteurs culturels, votre radio associative préférée est menacée par les coupes budgétaires. Avec ses émissions, une cinquantaine, ses bénévoles, ils sont 120, épaulés par 3 salariés et 3 jeunes volontaires en service civique. Et surtout vous, ses auditeurs, Radio G représente la richesse de notre cité et offre aux Angevins un espace d'expression libre et précieux. Ne laissez surtout pas cela disparaître. Aidez Radio G dans son fonctionnement et ses actions d'éducation aux médias en faisant un don à notre association sur le www.radio-g.fr. Cette participation sera déductible de vos impôts. Toute l'équipe de Radio G compte sur vous et vous souhaite de joyeuses fêtes.
Si vous sortez et que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un taxi, un VTC ou un transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée.
Merci Axel, mon héros.
Utilisez un éthylotest avant de bien rentrer. Ou alors, on attend le lendemain pour bien rentrer.
Oh, trop moelleux ton canapé.
Bien réveillonné, c'est aussi bien rentrer.
Chaque année, l'association Prévention Routière se mobilise pour des routes plus sûres. Pour soutenir son action, rendez-vous sur préventionroutière.asso.fr.
Come on, baby. We'll make it all right.